bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous accueillir ce soir. Alors, on ne va pas trop monter parce que vraiment, voilà, c'est, ça ira. Voilà, je vais ouvrir le bal parce que, d'abord, pour briser la glace, et puis pour donner un tout petit peu l'introduction par rapport au livre, et ensuite on n'en parlera pas forcément puisque chacune donnera sa manière sa relation avec sa communauté de foi et les questions qui se posent. Ce livre, Des femmes et des dieux, est né d'une différence de point de vue très fort entre l'éditeur et moi. Cette personne qui s'appelle Jean-Baptiste, qui travaille aux Arènes, est venu me voir peu de jours après mon élection comme présidente du Conseil national. Et il me dit, il faut absolument que vous fassiez un livre. Alors je dis, premièrement, je n'ai rien à écrire. Deuxièmement, j'ai une fonction à laquelle j'ai été élue, qu'il faut que je découvre, et éventuellement quelques petites choses à faire en lien avec cette fonction. Et troisièmement, je ne vois pas ce que j'aurais à dire de particulier dans la fonction qui est la mienne. Et cette personne, Jean-Baptiste, pendant 2 ans, tous les 3 mois, revenait régulièrement en me disant « Il faut que, au bout d'un moment, on s'est tutoyé. Il faut que tu fasses ce livre. Il faut que tu fasses ce livre. » Au bout de 2 ans, il a compris que je ne ferais pas le livre. Et on a pu commencer à discuter. Et il m'a dit « Alors, si tu ne veux pas faire ce livre seul, il faut que tu le fasses avec d'autres. » Et du coup, on a pu commencer à vraiment rentrer dans le sujet. Et je dis, alors là, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi voulait-il que j'écrive ce livre avec mes 2 amis? Parce qu'il était éberlué que l'Église protestante unie de France ait élu comme président de son conseil national une femme. Et moi, je trouvais ça parfaitement banal. Pas pour moi personnellement, bien sûr, parce que c'était quand même un peu perturbant, mais dans mon église, quelque chose de normal, au bout de 60 ans, depuis 60 ans, il y a des femmes pasteurs, à la louche, il est bien normal que quand il y a 40% de femmes dans le corps pastoral, l'une soit élue comme présidente du Conseil national, c'est de l'ordre de quelque chose de naturel, de normal, disons. Et donc, de cette différence entre ce que je considérais comme normal et celui considéré comme extraordinaire, il y avait quelque chose à se dire dans cet écart-là. Écart qui était souligné par un certain nombre d'articles de journaux au moment de mon élection et par ma stupéfaction devant ces articles. Et donc, il a fallu travailler cette différence, ce regard, je dirais, avec des guillemets de français moyen, ne comprenant pas qu'une femme puisse arriver à ce genre de fonction, et puis ma place de femme protestante, disant mais c'est parfaitement banal. Et donc nous avons travaillé sur cet écart avec mes 2 amies, Kaina Baloul et Floriane Chinsky, puisqu'elles sont aussi dans des positions qui ne sont pas banales, comme rabbin ou comme femme imam. Voilà le sujet du livre et nous avons parlé toutes les 3 pendant 1 semaine de la place de la femme dans une communauté de foi, de notre rapport aux écritures, de ce que nous en recevons, etc. Et donc en écho, après cette introduction, en écho, c'est ce dialogue que nous allons non pas rejouer, bien sûr, puisque un dialogue est toujours nouveau et toujours différent, mais que nous allons aussi vivre ce soir pendant quelques dizaines de minutes. Alors, là, je dirais juste en quelques mots, pour se situer, et je pense qu'on va se situer toutes les 3 de là où nous venons. J'ai moi-même grandi dans une famille qui était engagée dans l'Église réformée de France. L'Église réformée de France qui, avec l'Église évangélique luthérienne, a formé l'Église protestante unie il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Donc j'ai grandi dans l'Église réformée de France. J'y ai découvert la Bible, J'y ai reçu des paroles fortes, des paroles de l'Évangile, qui sont pour moi bonnes nouvelles. Et quand j'étais enfant, j'ai choisi de faire de cette bonne nouvelle le cœur de ma vie. J'ai choisi que la question de Dieu reste toujours centrale dans mon existence. Et c'est pourquoi j'ai fait le choix des études de théologie et je suis devenue pasteur à l'âge de 23 ans. J'ai eu différents postes, différentes fonctions, j'ai été pasteur de plusieurs paroisses, j'ai été aumônier d'hôpital aussi, j'ai été ensuite brièvement présidente d'une partie de cette région, de la partie Est, de la région Est-Montbéliard, et pasteur à Besançon, avant l'élection au Conseil national. Voilà très rapidement le parcours. C'est donc cette parole de bonne nouvelle que j'ai reçue, que j'ai choisie en tant qu'enfant, puis jeune, puis adulte, de garder vive et d'en faire le cœur de mon existence.
Donc, bonsoir à tous. Je suis moi aussi très heureuse de me retrouver parmi vous. Je ne connaissais pas ni votre région, ni vous-même, bien sûr. Et je remercie les organisateurs des deux associations qui nous ont invités, Je me réjouis beaucoup de participer à ce dialogue, ce trialogue. Je m'appelle Janine Elkoubi, je suis juive. Je suis mère de famille, enfin je suis mariée, j'ai 6 enfants. Je suis professeure de lettres classiques à la retraite et j'écris et je suis aussi engagée dans des associations, entre autres dans l'Amitié judéo-chrétienne de Strasbourg et dans d'autres groupes également de dialogue, des groupes d'études bibliques, interconfessionnelles, et donc j'ai une longue pratique de cela et ça me très précieux. Je suis juive, je suis née dans une famille juive d'Alsace. Mes deux parents sont d'Alsace, ma mère, alors je dirais plutôt comme ça, vous ne savez pas que les juifs d'Alsace, pendant très longtemps, à partir du moment où ils ont été exclus des villes en Alsace, ont vécu dans les campagnes, ont vécu dans les villages. Ce qui veut dire qu'en Alsace, il y a à peu près 150 villages qui ont été le berceau de communautés juives, de petites communautés juives, parfois de plus grandes communautés juives. Et mes grands-parents des deux côtés, paternels et maternels, sont des enfants de ces communautés juives alsaciennes. Moi, je suis née à Strasbourg après la guerre et j'ai grandi donc dans cette famille juive où était transmise les valeurs juives fondamentales, bon, je parlerai tout à l'heure de certaines choses. Et j'ai grandi du point de vue scolaire, j'ai été scolarisée dans l'école publique, donc ça s'appelait lycée de jeunes filles, et ça, la scolarité se faisait depuis le CP jusqu'à la terminale, dans ce qu'on appelait à l'époque lycée de jeunes filles. Et donc j'ai été tout le temps, depuis toujours, à la fois dans cette famille juive où se transmettait, alors je n'ose pas dire la religion juive, c'est quelque chose qui, c'est un mot qui ne convient pas du tout, la manière juive de vivre et les valeurs qui sont derrière, mais également dans l'école publique, dans la société en général, et peut-être que c'est là ce qui m'a formée de façon durable dans la recherche des ponts entre les différentes facettes de mon identité. Je rejoins le thème de tout à l'heure. Oui, je suis à la fois juive ancrée dans le terreau, dans la culture, dans la langue, dans les façons de vivre juive, et en même temps, je suis, alors pour aller très vite, française, citoyenne française, ancrée dans les valeurs de la République, dans les valeurs de la France. Alors, pardon si ça a des résonances faussement politiques, ce que je dis, mais je me reconnais dans la France, dans les valeurs également qu'elle a transmises, et surtout dans sa langue. Je vous ai dit, je ne me rappelle pas si je vous ai dit, que j'étais aussi écrivaine, et que ma patrie, quelque part, c'est la langue française.
Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, mes remerciements aux personnes qui nous ont invités, aux associations Saint-Martin Bien Commun et Racine et Chemin, Bibliothèque des Religions, tout un programme. Et donc, je me présente aussi succinctement. Je suis Lia Céline Tabé. Je suis juriste de formation, droit international, que j'ai étudié en France et également à l'Académie de droit international de La Haye. Donc, c'est ma spécialité. Et très intéressée par les questions de religion, droit et société. Je me suis spécialisée, j'étais une des premières diplômées d'un diplôme qui avait été créé en 2011 à Strasbourg, qui s'appelle Master 2, Religion, Droit et Société, Islamologie. Que dire? Eh bien, que je suis très heureuse de vous retrouver pour la troisième fois, à trois voix, autour de ce livre, Des femmes et des dieux, que j'ai lu avec beaucoup de bonheur. J'ai appris des tas de choses. Bien entendu, j'ai découvert, mais je savais déjà, combien les femmes, nous avons des similitudes, hein, des regards, justement, on en parlera tout à l'heure. Et moi, je me suis beaucoup retrouvée, puisque je parle au nom de la personne donc musulmane qui témoigne dans le livre, qui est Karina Bahloul. Donc, je parle en son nom, donc j'ai lu attentivement ce qu'elle dit, et beaucoup de choses résonnent en moi. Déjà, l'histoire de son histoire familiale, très jeune, elle est née dans un milieu interculturel, et moi aussi. Donc, je suis de Tunisie et de France. Et je peux dire, je dis souvent, d'ailleurs, je suis comme Obélix, je suis tombée dans la potion magique de l'interculturalité et de religion toute petite. Je suis tombée dans cette marmite parce que mon père est tunisien, musulman, donc d'Afrique, monde oriental. Ma mère est française, chrétienne, donc Europe, monde occidental. Et moi, j'ai découvert ça tout naturellement à la naissance. Donc, c'est mon cadeau de naissance, je dirais. Et donc, cette interculturalité, c'est plutôt de l'expérience et du vécu dont je vais vous parler. Évidemment, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'en vois des richesses et j'en vois aussi de nombreux défis. Et on les connaît. Donc, peut-être tout à l'heure, je pourrais vous en parler plus, mais de vous dire que je vous parle avec des horizons différents, des langues aussi différentes. Alors, j'ai vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 20 ans. J'étais scolarisée dans une école arabe. Donc, je connais très bien l'arabe. J'ai appris en Tunisie et je suis venue pour mes études universitaires en France. Et puis, je vais être le reste pour tout à l'heure. Alors, une des questions qu'on s'est posée rapidement avec mes deux amis, c'est quelle est notre place, chacune dans sa religion ou communauté de foi, ou voilà. On ne se reconnaît pas chacune dans le même mot. Si l'on regarde en protestantisme, le protestantisme réformé et luthérien a connu, depuis un siècle, la revendication des femmes pour accéder au ministère pastoral. Cette revendication, elle est née au tout début du XXe siècle, à partir des années 1910-1920, parce que les femmes sont arrivées dans les universités et ont fait les mêmes études que les hommes. Une fois qu'elles avaient une maîtrise en théologie, aujourd'hui on dit master, il n'y avait pas de raison, pensaient-elles, qu'elles ne puissent pas accéder au ministère pastoral si c'était leur vocation. Et donc, pendant toute la première moitié du XXe siècle, il y a eu de gros débats sur est-ce que les femmes peuvent accéder au ministère pastoral ou pas. Et les arguments qui étaient avancés contre l'accession des femmes au ministère pastoral, en fait, on sont très vite révélés que ces arguments n'étaient pas des arguments théologiques de la réforme, mais des arguments, comment dire, hérités plutôt de la manière de vivre de la société, habillés d'arguments théologiques qui n'étaient en rien réformés. Et donc il y a eu pendant 20 ans, 30 ans, une lutte pas à pas des femmes pour accéder au ministère pastoral. Dans certains lieux, c'est allé plus vite que dans d'autres, dans certaines églises plus rapidement. Et aujourd'hui, un certain nombre d'églises évangéliques, dans la mouvance protestante, ont également maintenant des femmes pasteurs. Petit à petit, les arguments sociaux ou sociologiques ou, sont tombés les uns après les autres, alors que, au niveau de la société, les femmes accédaient à différents métiers, qu'elles pouvaient exercer ces métiers alors qu'elles étaient mariées, alors qu'elles avaient des enfants. Et quand ça a été possible dans d'autres métiers, c'est devenu aussi possible au niveau du ministère pastoral. Et du coup, quand moi je suis née, il y avait déjà des femmes pasteurs, c'était le début, mais quand j'ai grandi, il y avait des hommes et des femmes pasteurs, et j'ai pu faire mon choix sans être barrée par quoi que ce soit. Je n'ai rencontré moi-même jamais d'opposition à mon ministère pastoral en tant que femme. Et de manière assez paradoxale, souvent des paroissiens hommes avaient avec moi des entretiens dont ils disaient après qu'ils n'auraient pas eu cet entretien-là avec un homme pasteur. Et ça m'a beaucoup interpellée, parce que je ne comprenais pas pourquoi certains hommes préféraient venir me dire des choses difficiles. Et récemment, j'ai encore lu un certain nombre de livres sur ce sujet du passage de l'ouverture au ministère féminin. Et l'auteur de ce livre expliquait qu'en fait, une femme qui occupe un ministère pastoral ne rentre pas, ne met pas la veste d'un homme pasteur. Elle habite autrement cette fonction. Et que pour l'instant, enfin, disons dans les années 70-80, il n'y avait pas encore de projection sur les femmes pasteurs. Et donc les femmes pasteurs pouvaient habiter le ministère pastoral autrement. Et que finalement, ça permettait aussi pour les paroissiens d'avoir un autre rapport qu'avec le pasteur homme qui habiter, entre guillemets, une fonction de telle et telle manière. Donc finalement, le ministère vécu par des femmes est aussi une chance pour les hommes, parce qu'ensuite, ils peuvent habiter le ministère pastoral autrement. Mais je pense que peut-être on reviendra là-dessus. En tout cas, en protestantisme, c'est donc un combat de femmes, aidé par les hommes aussi, qui, pour moi, dans l'Église réformée, a été gagné en 1965-66, avant la naissance. Alors, la place des femmes dans le judaïsme.
Ce que je vais vous dire va être très différent de ce que tu viens de dire, Manuel, pour ton différent raisons. Alors, je vais partir de mon expérience personnelle pour peut-être après généraliser un peu plus. La question du rabbinat féminin, avant la question du rabbinat féminin, s'est posée pour moi en 2006, une question beaucoup plus anachronique encore, qui était celle de l'accession des femmes à l'institution consistoriale dans les trois départements concordataires. Vous savez que l'Alsace, Moselle, est régie encore par les lois du concordat, par les lois concordataires, et que donc les consistoires sont des établissements publics qui régissent toutes sortes de questions, mais aussi qui régissent les relations du culte juif, catholique ou protestant, avec le ministère des cultes. En 2006, les femmes n'étaient pas éligibles dans les consistoires concordataires. 2006. Avec une amie, nous avons, en 2006, donc, décidé que c'était une situation assez extraordinairement anachronique. Et nous avons, pensant régler la situation par une simple lettre au président du consistoire de l'époque, nous lui avons écrit pour lui dire, voilà, du 5 septembre en 2006, de régulariser cette situation et de se mettre en accord avec la loi française. Les établissements consistoriaux sont soumis à la loi française, comme tous les établissements publics, et donc de faire en sorte que les femmes, alors on n'était pas à la parité, c'était l'impossibilité d'accéder pour des femmes à un poste de conseiller consistorial. À notre grande surprise, donc nous avons fait ça, nous étions deux à faire ce que nous croyons être une formalité. Sonia Bichet, que certains connaissent peut-être, qui écrit aussi, et moi-même. Et à notre grande surprise, bon, je vous épargne tous les détails, nous avons mis un an à réussir cette affaire-là, et nous avons été obligés de recourir à un jugement en référé du tribunal administratif pour dire ce que nous savions être évidemment vrai, puisque nous avions aussi des documents juridiques nécessaires pour dire que le consistoire, des consistoires en Alsace étaient en infraction avec la loi française et que donc il fallait, ils avaient déjà envoyé tous les documents pour les élections en passant par-dessus notre demande. Et donc il fallait recommencer à faire des documents électoraux. Et à ce moment-là, j'ai été élue au premier tour, ce qui n'arrivait jamais, et avec une écrasante majorité de voix, j'avais été suivie par l'ensemble de la communauté. Alors ça, c'est pour illustrer quelque chose qui n'a rien à voir, je pense que vous le percevez dans ce que je vous raconte, qui n'a rien à voir avec une position juive, une position qui serait celle du judaïsme. Même si certains rabbins n'ont pas hésité, je suis désolée de le dire comme ça, à instrumentaliser la loi juive pour prétendre au tribunal, j'étais présente, donc j'ai entendu, pour prétendre que la loi juive interdisait qu'une femme soit élue. C'est un énorme mensonge. Cette position têtue des membres du consistoire, ils sont six, et du grand rabbin de l'époque, avec lequel j'entretiens l'excellente relation, c'était le grand rabbin René Gutmann, dont vous avez peut-être entendu parler aussi, cette position-là était purement et simplement une position de confort. On est tellement bien entre hommes, qu'est-ce qu'on va se casser la tête et les pieds à faire entrer des femmes? Elles vont nous amener des façons de faire, des façons d'agir dont on a pu faire. Je pense qu'on a analysé, on a écrit dessus sur cette affaire-là. C'était une position simplement de ce phallocrate. C'était une position aussi de peur du changement. Les habitudes, les routines sont tellement confortables. Le changement, on en a une grande peur. Et il y a peut-être d'autres raisons, mais sur lesquelles je reviendrai plus tard également. Donc cette anecdote-là, qui n'en est pas assez une, parce qu'il faut que je vous dise que cette affaire purement alsacienne a été médiatisée non seulement en France, dans les journaux nationaux, mais également à l'étranger. Pour vous dire à quel point ça a frappé, et à l'étranger, je veux dire dans les journaux, par exemple aux USA ou en Angleterre, on a fait état de cette lutte d'arrière-garde, vraiment une lutte d'arrière-garde. Donc ensuite, j'ai été membre du consistoire, je suis devenue la vice-présidente. J'ai travaillé dans ce consistoire avec une autre femme pendant 8 ans, puisque la durée des mandats, là aussi, c'est complètement anachronique, c'est 8 ans. Et ensuite, je n'ai pas repostulé. Je trouve que 8 ans, c'est déjà pas mal. Et il n'y a plus de femmes après. Il y a eu deux candidatures pour la mandature suivante. Ces femmes n'ont pas été élues. Bon, c'est la liberté des électeurs. Mais ce qui me désole plus, c'est qu'il n'y a pas de candidature de femmes. Il n'y a pas de candidature de femmes. Les femmes sont juives en France, sont extrêmement passives. Ça n'est pas valable, bien sûr, pour tous les individus, nous sommes bien d'accord. Mais grosso modo, les femmes juives en France revendiquent très peu. Se manifestent très peu, sont très bien chez elles. Enfin, travaillent bien sûr aussi, mais il n'y a pas ce bouillonnement, cette effervescence qu'on peut avoir dans d'autres communautés juives hors de France. Par exemple, aux USA, également au Royaume-Uni et en Israël, où les choses bougent et changent beaucoup plus. Alors, peut-être que je vais m'arrêter là pour maintenant, s'il y a des questions. Alors, la question du rabbinat, il y a des rabbins, des femmes des rabbines, comme vous le savez, certaines très célèbres, Delphine Riedler, Florian Schinski, qui est la co-autrice de ce livre. Il y en a quelques autres également. Pauline Webb, qui est la plus ancienne femme rabbine en France. Elles ne sont pas dans des communautés orthodoxes, elles sont dans des communautés libérales, on appelle ça des communautés libérales. Et elles sont, comparativement à l'ensemble, assez peu nombreuses, bien que quand même en progression. J'ai une amie à Paris qui est une femme orthodoxe et qui est en train de se former comme rabbine, mais pas en France. Il n'y a aucun institut de formation de rabbine, de femme pour le rabbinat en France. Elle se forme aux États-Unis, à New York. Elle s'appelle, bon, je donne son nom, peut-être que vous entendrez parler d'elle, elle s'appelle Anna Brunich. Et c'est une femme formidable. En France, et ce sera peut-être le dernier mot que je dirai pour le moment, nous sommes, de même que je vous ai dit que les femmes sont très passives et très peu protestataires, très peu dans la conquête. Les mots sont piégés, ce n'est pas des conquêtes de droits supplémentaires. Dans la conquête de positions supplémentaires, on va dire. De façon générale, le judaïsme français, en tout cas, le judaïsme institutionnel français, est extrêmement conservateur. Et quand je dis conservateur, on peut être conservateur, mais là, c'est conservateur dans un sens vraiment très conservateur. J'ajouterai encore que la question de la lutte pour le rabbinat n'est pas et de loin pas la question qui me semble à moi prioritaire. Il y en a d'autres qui sont bien plus importantes. L'une d'entre elles, c'est la question de l'étude, de l'accès à l'étude pour les femmes. En France, il y a, dans les écoles juives en France, par exemple, il y a des domaines importants de l'étude juive qui ne sont pas ouverts aux filles. Je veux parler de l'étude du Talmud et de la Mishnah, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle dans la communauté juive, l'enseignement oral, la loi orale, tout ça, ça n'est pas accessible aux filles, sinon par des cours privés. Vous comprenez bien que, en tout cas j'affirme très fort, que c'est impensable aujourd'hui de ne pas avoir accès au Talmud. Pourquoi? Parce que le Talmud, c'est le développement naturel de tout ce qui est étude des textes bibliques. On ne peut pas concevoir aujourd'hui de lecture biblique, d'études bibliques, qui ne s'appuie pas sur le Talmud, ou sur les commentaires traditionnels. C'est tellement vrai que quand, même dans les écoles juives qui sont réfractaires à cet enseignement, toutes les écoles juives en France qui sont réfractaires à cette égalité de l'enseignement, par la bande quand même, l'enseignement talmudique entre, parce que c'est impossible de donner des exégèses, des explications, d'aborder le texte, sans passer par cette case-là. Beaucoup de travail encore à faire en France.
Alors, beaucoup de travail à faire en France et ailleurs aussi. Donc, par rapport à l'islam, je dirais que dans le texte, et je reprendrai ce qu'a dit Italien Bagoul, puisque je vous ai dit ce qu'elle a écrit en grande résonance avec ce que moi j'ai vécu ou ce que je vois. Dans le texte du Coran, il y a une égalité entre les femmes et les hommes. Et dès la création, il est bien dit que Ève et Adam sont sortis du côté l'un de l'autre. Il n'est jamais dit que Ève est sorti de la côte d'Adam. Et on ne sait pas d'ailleurs qui est sorti de la côte de qui. C'est une égalité déjà rien qu'au niveau de la création. Ensuite, au niveau du péché originel, qualifié ainsi, il n'y a absolument pas la tentation par Ève d'Adam. Ils ont été tous les deux tentés de la même façon, également. Et au niveau du statut, la femme a un statut de croyante à égalité de l'homme. Il est dit, chaque fois quand on s'adresse autant à la croyante ou au croyant. En plus, il faut dire, bon, la lecture en arabe est très harmonieuse, c'est très poétique, le texte arabe est très fort. Donc c'est chaque fois les deux, on s'adresse aux deux. Donc la femme n'est absolument pas mise de côté au niveau du texte coranique. Bien au contraire, elle a sa place privilégiée autant que l'homme. On lui demande les mêmes pratiques, les mêmes observances religieuses que l'homme. Alors, je voudrais vous en donner quelques exemples, dont un que je vous lirai de Karina Badoul. Déjà, la femme du prophète. Et moi, ça me questionne jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, le prophète Mohammed, il s'est marié jeune, et c'est pas lui qui a demandé en mariage sa femme. C'est elle qui l'a demandé en mariage. Ce qui, même aujourd'hui, presque inentendable. On a toujours tendance à se dire, c'est l'homme qui demande la main à la femme. Eh bien, Khadija, qui était une femme d'affaires, une femme qui était à la tête d'un commerce florissant, qui manageait des hommes, qui travaillait avec des hommes, et qui n'était absolument pas à la maison, confinée et cachée, au contraire. Elle était en responsabilité des hommes, c'est elle qui a choisi son mari. Et non seulement elle a choisi son mari, elle a osé le demander en mariage. Et non seulement cela, c'est qu'en plus elle était plus âgée que lui. Ce qui aujourd'hui aussi est inentendable. On dit souvent, ah ben le mari, c'est bien qu'il soit plus âgé, etc. Parce qu'on infantilise toujours la femme. Donc rien que le statut de Khadija, la femme du prophète, la première femme musulmane. Ensuite, revenir à ce qu'a cité Karina Badoul. Donc si vous permettez, je vais lire, comme ça je ne défends pas ce qu'elle dit. Eh bien, c'est sur Marie. Maryam. Maryam, donc Marie, la mère de Jésus, et souvent, il est, faut le savoir, dans le Coran, souvent il est question de Jésus, et souvent à Isa, et souvent il est question de Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam. Et ça c'est la sourate 19 du Coran, et elle est très souvent citée. Et Marie est considérée chez les musulmans Notre-Dame, Notre-Dame, ça y est, une Marie. Et bien, donc, là, je vais vous lire ce que dit Karina Badoul. Mais j'aimerais revenir à la source. La source pour les musulmans, c'est le texte coranique. Prenons l'exemple de Marie. L'histoire de Marie dans le Coran est riche d'enseignements. Sa vie est beaucoup plus détaillée dans le texte coranique que dans la tradition chrétienne. Non seulement elle détient une parole, mais elle fait même l'objet d'une élection divine. Et là, je vous cite la sourate 3, verset 42-43 du Coran. Et quand les anges dirent, « Oh Marie, Marie, Dieu t'a élue, t'a purifiée, il t'a élue sur toutes les femmes de l'univers. Oh Marie, Marie, prosterne-toi pour l'adorer et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » Elle est citée dans la sourate des prophètes, ce qui, en dépit des controverses théologiques, y compris dans l'exégèse classique, lui confère le statut de prophétesse. Par ailleurs, Marie est prédicatrice, comme diraient les chrétiens. Elle prêche et surtout, elle a un vrai dialogue avec Dieu, un véritable échange. Et puis, elle devient enseignante, notamment auprès de Zacharie, qui était son tuteur dans le temple et avait pour mission de veiller sur elle. Le verset 37 de la Sourate 3 relate l'étonnement de Zacharie devant les offrandes divines que recevait Marie. D'ailleurs, ce verset, vous le trouvez souvent dans les mosquées, dans les mihrab, c'est-à-dire la niche qui donne la direction de la Mecque et à laquelle donc tous les musulmans se tournent. Et ce verset, on le retrouve souvent, celui que je vais vous citer. Chaque fois que Zacharie allait la voir au temple, il trouvait chez elle une provende et il lui demandait « Ô Marie, d'où cela te provient-il ? » Elle lui répondait « Cela me vient de Dieu. Certes, Dieu donne à qui il veut sans compter. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. » Et donc là, je vais vous lire un tout petit peu plus, mais je ne vais pas être trop longue. Le propos de Zacharie révèle un véritable trouble et un questionnement intérieur profond de Zacharie face à cette jeune fille qui a atteint un niveau de réalisation spirituelle hors du commun jusqu'à devenir l'inspiratrice de la prophétie. Donc, au niveau des textes coraniques, la place de la femme, elle est entière, elle est égale. Après, la grande question que nous posons, et que pose Karina Badoul, eh bien, elle est entière dans le Coran, donc, il faut qu'on la traîne dans la société, parce que elle n'était pas donnée. Et là, il n'y a pas le poids de la religion. Il y a le poids de la tradition. Il y a le poids du patriarcat. Il y a le poids de coutume et du regard qu'on porte sur les femmes. Donc c'est absolument pas la religion musulmane qui cantonne les femmes et les enferme. Absolument pas. Et Karina Badoul, donc je vous invite à lire ce très beau livre, merci Emmanuel, puisque tu es la seule de la trilogie à être présente, eh bien, Karina, elle s'est battue, elle se bat pour dire que non, il n'y a aucune interdiction pour une femme d'être imam. Et ce combat, c'est un combat, il se mène dans plusieurs pays, il y a des femmes imams, il y a par exemple Amina Wadoud aux États-Unis, il y en a d'autres, mais elles sont rarissimes. Par contre, il y a une chose qui est vraiment, je pense, la clé de l'émancipation, c'est l'éducation. Parce que plus les femmes sont éduquées, et plus elles peuvent lire les textes et les éclairer de leur manière. Et pour vous en donner un exemple, en Tunisie, il y a des théologiennes qui maintenant se saisissent du Coran en disant « Mais vous nous interdisez certaines choses en vous basant sur le Coran, mais nous, on ne lit pas de votre manière. » Et donc c'est le regard sur le Coran qui change. Le texte, il ne change pas. Il est là depuis sa révélation. Il ne change absolument pas. Mais c'est le regard sur les textes qui change. Et c'est les éclairages différents. Et c'est vrai que depuis que les femmes savent lire le Coran, et savent lire dans les textes, et là je pourrais vous en citer des théologiennes, que ce soit Amel Grani, que ce soit Herbel Harbi, que ce soit Fayous, nous avons fait beaucoup de Tunisiennes de l'école de Tunis, notamment, mais on a bien plus ailleurs dans le monde, depuis que la femme maintenant se saisit des et dans l'éducation, et qu'elle peut lire le texte, eh bien, elle interroge et elle prend de plus en plus sa femme. Mais l'imama, non, pas encore, ça c'est sûr, à part quelques-unes. Donc, Karina Badoul, c'est une des premières en France, mais on peut dire qu'elle est la seule pour le moment. Ils sont trois, en fait, à Paris. Il y a deux autres femmes imams à Paris. Alors, on a parlé du Coran, à mon tour de parler de la Bible et de la manière dont, comme chrétienne, protestante, je lis le texte biblique et j'y découvre des choses qui bousculent ma manière de penser ou qui invitent à poser un autre regard sur le monde. On renvoie souvent quelques versets de l'apôtre Paul qui a écrit à un moment, il a craqué. Moi, il a écrit que les femmes se taisent dans les assemblées. Et donc, depuis, chaque fois que les femmes prennent la parole dans les assemblées chrétiennes ou protestantes, eh bien, certains prennent un malin plaisir à renvoyer ce verset de l'apôtre Paul. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on se trouve dans cette situation? Eh bien, il faut travailler. Il faut lire le texte, le lire avec plus d'attention, le lire avec plus de soin, essayer de comprendre pourquoi à un moment l'apôtre Paul écrit ça. Et quand on commence à lire la lettre aux Corinthiens, là, bien, on se rend compte que, en fait, Paul dit à tout le monde de se taire. À ceux qui ont des prophéties, qu'ils se taisent, à moins que quelqu'un interprète la prophétie. À ceux qui parlent en langue, qu'ils se taisent, à moins que quelqu'un soit là pour expliquer. Et donc, pendant tout le chapitre, en fait, Paul va décrire ce qui se passe dans la communauté de Corinthe. On comprend bien que finalement, tout le monde parlait à tort et à travers. Et pour finir, donc, il dit aux femmes de se taire aussi. Et pour finir le chapitre, il dit, parce que ce qui viendrait, alors je le dis avec mes mots, ce qui arriverait dans la communauté chrétienne ne pourrait pas recevoir la bonne nouvelle, ne pourrait pas entendre la bonne nouvelle, parce que vous vivez le culte de telle manière que ça ne pourrait pas être reçu. Et on comprend bien que le choc était très grand, sans doute, pour des Corinthiens, qui vivaient dans une société cloisonnée, où les femmes avaient un certain rôle à la maison, où les hommes seuls avaient le droit de parler en public, etc. On comprend bien que si quelqu'un de non averti arrivait dans la communauté chrétienne et voit que hommes et femmes étaient à égalité dans la communauté, que tout le monde parlait, que tout le monde s'interpellait, eh bien, la personne qui vient de l'extérieur ne pourrait pas entendre l'essentiel pour l'apôtre Paul, pour les chrétiens, qui est le message de la bonne nouvelle à recevoir. Et je serais simplement choqué de voir cette communauté dont il ne comprendrait pas les codes et les usages. Et donc, si on le relie avec notre regard d'aujourd'hui et notre manière de vivre en société aujourd'hui, eh bien la question de l'apôtre Paul demeure. Si quelqu'un rentre dans la communauté chrétienne, est-ce qu'il va recevoir l'Évangile en vous voyant célébrer ou pas? Et donc, si les femmes aujourd'hui n'ont pas la parole pour partager l'Évangile avec les hommes, eh bien, qu'est-ce qu'un non-chrétien qui rentre recevrait-il l'Évangile en voyant la communauté fonctionner comme ça? Et donc, on voit bien que la réponse serait différente aujourd'hui. Dans la Bible, il y a des femmes partout. Depuis, Lydia l'a rappelé, depuis le tout début du récit, jusqu'au moment de la résurrection de Jésus, où c'est quand même trois femmes qui vont venir témoigner alors qu'elles n'ont pas un statut de témoin valable. Il y a des femmes prophètes, il y a des femmes disciples, des femmes apôtres. Des femmes apôtres, donc, des correcteurs ont un peu corrigé le prénom pour que ça fasse homme, parce que c'était gênant d'avoir une femme apôtre. Des femmes chefs de communauté. Donc, on les trouve partout. Donc, si on travaille le texte biblique, on se rend compte que les femmes et les hommes ont été à l'écoute, ont reçu le message de la bonne nouvelle, que les femmes et les hommes ont débattu avec Jésus, que les femmes, notamment, lui ont posé des questions théologiques et qu'il a débattu avec elles. Et donc, il n'y a pas de raison, et en plus, théologiquement, dans le baptême, chaque baptisé reçoit sa dignité d'enfant de Dieu, et donc égalité de dignité dans le baptême. Mais les femmes de la Bible qui sont mises en lumière, racontées, ont des histoires particulières. Si l'on regarde la généalogie de Jésus dans l'évangile de Matthieu, les généalogies, c'est un tel engendra un tel qui engendra, etc. Que des hommes. Et il y a 5 cailloux dans la généalogie, 5 prénoms de femmes au passage, comme ça. Et toutes les 5 ont des histoires incroyables. Il y a la prostituée, il y a celle qui a dû convaincre l'homme qui devait l'épouser, de l'épouser vraiment, elle l'a mis devant, c'est accompli. Il y a celle qui est appelée la femme du lit, David eut comme enfant avec la femme du lit, donc adultère, etc. Et donc c'est toutes les femmes de cette généalogie de Jésus sont des femmes avec des vies incroyables. Et aujourd'hui, comme femme, alors ces femmes m'ont beaucoup inspirée, non pas pour avoir une vie incroyable, ce n'est pas le sujet, mais pour dire, et les femmes sont présentes là, un peu comme un caillou dans la chaussure, vous voyez. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais finalement, j'aimerais, on ne réécrit pas la Bible, on ne la découpe pas, on n'enlève pas les morceaux qui ne conviennent pas non plus, hein. La Bible, c'est la Bible. Mais j'aurais aimé qu'il y ait aussi des femmes ordinaires. Et quand on pense à Marie, justement, cette femme extraordinaire, qui est prise comme exemple, notamment dans la religion catholique, comment les femmes peuvent avoir pour exemple une femme qui est vierge et mère? Avouez que ce n'est pas tout à fait possible. Et donc, voilà, aujourd'hui, quand je travaille encore le texte, je me dis, mais j'aimerais que parmi les disciples, un peu, toujours un peu à côté de la plaque, qui ne comprennent pas, qui posent des questions idiotes, qui ne comprennent rien à rien, qui s'enfuient au moment de la crucifixion, j'aurais aimé qu'il y ait aussi des femmes là, un peu ordinaires. Mais ça, c'est peut-être le siècle prochain. Non pas de réécrire la Bible, mais qu'on puisse. Que les femmes ne soient pas obligées de se battre ou d'avoir des vies un peu extraordinaires pour avoir juste la place qui leur revient. Mais je me suis un peu égarée, pardon. Ce que je voulais dire sur la Bible, c'est que simplement, il nous faut tout le temps travailler. Tout le temps travailler le texte biblique. Tout le temps y revenir. Ne jamais être satisfait d'une première lecture. Ne jamais penser qu'on a tout compris parce que c'est pas vrai. On a juste compris un tout petit peu. Et quand on revient et quand on relit le texte, on découvre chaque fois de nouvelles choses. Et pour la place des femmes, pour la place de ce que les femmes peuvent faire aussi, c'est-à-dire pour les autres minorités, on dit toujours les femmes ouvrent la porte aux autres minorités comme si les femmes étaient minoritaires, ce qui est faux, numériquement parlant. Moi j'avais appris à l'école que les femmes étaient toujours un tout petit peu majoritaires en nombre dans la population mondiale. Mais voilà, le chemin ouvert par les femmes aide les personnes en situation de minorité à trouver aussi leur place. Et ça, je crois que c'est aussi notre responsabilité. Janine, le texte, rien que le texte, et le débat, et les questions, et les questions.
Oui, puisque les questions, c'est le centre de l'étude. Alors je vais, oui, j'en ai pas du tout parlé pour le moment, et quand vous avez évoqué le Coran, je me suis dit, oui, il faut quand même que je parle de ce rocher central, je parlais de cailloux, mais pas dans le même sens, de ce rocher sur lequel, qui est une image qui revient constamment d'ailleurs dans le texte biblique, sur lequel est ancré et enraciné toute cette étude. Alors, je rappelle que j'ai écrit un livre il y a quelques années déjà qui s'appelle Chronique biblique au féminin, dans lequel j'évoque 20 femmes de la Bible, mais pas simplement en racontant leur histoire, en leur donnant la parole. J'ai donc donné la parole à Ève, à Sarah, à Agar, à Déborah, à 20 femmes bibliques, avec comme parti pris ou comme objectif. Donc d'une part, effectivement, de les faire parler, et de les faire parler en utilisant et le texte lui-même et les commentaires très nombreux du Midrash. Le Midrash, c'est c'est la modalité de lecture du texte biblique, on va dire, qui apporte une pluralité de lecture, parce que c'est ça finalement l'important, une pluralité de lecture, une plurivocité au texte, qui fait qu'on est souvent très étonné, très surpris de la dimension et de la personnalité de ces personnages. Je précise juste que le commentaire midrashique n'invente rien, il accroche sa lecture à des termes du texte. Alors, de façon générale, ces femmes bibliques, ce sont toutes des femmes de poigne et des femmes de tête. Elles agissent, elles contrent les hommes, elles se fâchent, elles s'énervent, Sarah par exemple, elles rusent quand il n'y a pas d'autre moyen de se faire entendre, quand on ne peut pas avancer droit, alors on avance en contournant l'obstacle. Elles sont aussi, pour certaines d'entre elles, je pense à Déborah par exemple, Déborah, c'est dans la Bible, donc dans la société biblique très ancienne, une femme qui a été prophétesse, parce qu'il y a des femmes prophétesses, tu l'as appris Emmanuel, prophétesse, mais également chef d'État, le juge, la fonction de juge, on dit qu'elle est juge, mais le juge dans le livre des juges justement, ça n'est pas seulement une fonction de jugement, une fonction juridique, c'est aussi une fonction politique. Et Déborah, on le voit bien à travers le texte, elle exerce la fonction de chef d'État et de chef militaire. C'est une femme donc qui agit, qui conduit l'armée, c'est aussi une poétesse d'ailleurs, puisque le deuxième chapitre qui raconte son histoire, c'est le chant qu'elle a composé, le poème qu'elle a composé pour célébrer la victoire. Et donc, ces femmes sont extrêmement différentes, elles sont toutes agitantes, mais elles sont extrêmement différentes, et elles sont des facettes différentes de tout ce que peut être ou vouloir être une femme. J'ai pas du tout le temps d'entrer dans beaucoup de considérations, si vous voulez regarder peut-être quelque part le livre que j'ai écrit, j'ai donné à la fin de chaque chapitre les références textuelles que j'ai utilisées. Mais je voudrais juste, pour illustrer cette dimension de plurivocité du texte et de plurinterprétation du texte, parler de Ève, puisqu'on en a parlé à ma droite tout à l'heure, je crois que c'est Emmanuel qui l'a évoqué, mais c'est quand même pourquoi est-ce que je vais parler d'elle 2-3 minutes en focalisant sur elle. Parce que Ève, dans la tradition chrétienne et dans la tradition laïque qui s'en est suivie, parce que la tradition laïque est à base de pétri de l'inconscient chrétien, Ève a été la fauteuse de troubles dans cette tradition populaire, courante. Ève, c'est celle qui a introduit le péché dans le monde, là je cite certains pères de l'Église, mais dans l'inconscient collectif, Ève, c'est vraiment celle qui a tout mis par terre. Or, quand on lit le texte, et là je fais écho à ce que dit Emmanuel, retourner au texte, le lire, mais le lire avec, comme le fait par exemple Marie Balmary, qui n'est pas théologienne, qui est psychanalyste, mais qui lit en hébreu, et qui amène littéralement des perles interprétatives qui, chose étonnante, font souvent écho et résonance avec justement les pistes d'interprétation qu'on trouve dans les Midrashs. Alors je vais aller très vite parce que tout ce texte mériterait d'être étudié mot à mot. D'abord pour dire que l'histoire qui circule, que tout le monde connaît, l'histoire d'un homme à qui sa femme souffle de désobéir, c'est pas ça qui est écrit dans le texte biblique et pas dans le texte hébraïque. Premièrement, Adam, c'est le nom que couramment on donne à l'homme au sens masculin du terme. Adam, c'est un nom commun. Dans le texte biblique, c'est un nom commun qui presque toujours est utilisé avec l'article Ha-Adam. Et ce Adam signifie, et c'est écrit alors là, fleur de texte biblique au chapitre 5, Adam, ça signifie l'être humain. Pas du tout l'être masculin. Deuxième point, lorsque dans le deuxième chapitre, il est question de la création de la femme, dans le premier, dans le deuxième, il y a deux récits de la création, et dans le récit, dans le deuxième récit de la création, lorsque, d'après ce qu'on nous a raconté, que nous avons lu dans toutes les traductions de la Bible, il est question de l'homme tiré de la côte d'Adam, eh bien le texte biblique ne dit pas la côte d'Adam. Le mot côte, c'est le mot tsela en hébreu, et la tradition midrashique, ou du moins une partie d'entre elles, comprend non pas ici côte, mais côté. Un commentateur fondamental comme Rashi, au XIIe siècle, sans lequel, qui accompagne toujours la lecture du Premier Testament aujourd'hui, Rashi, par exemple, explique des termes hébraïques qui, à son époque, n'étaient plus compris. Et il les explique, d'ailleurs, petite parenthèse sympathique, il donne très souvent des traductions en français de l'époque. Ce qui fait que Rashi est devenu une mine de renseignements sur le plan linguistique, sur la langue romane parlée au XIe siècle. Je referme la parenthèse. Rashi dit donc, explique que le mot tsela utilisé ici ne veut dire non pas la côte, mais le côté. Et il le justifie en disant que dans un autre endroit, dans le livre de l'Exode, le même mot tsela désigne le côté du sanctuaire. Bon, alors, à partir de ces deux réflexions-là, on comprend bien que raconter que Ève a été tiré de la côte d'Adam, et dire que Ève est un côté de l'humain, ça a des conséquences énormes sur l'idée même qu'on se fait de la création, l'idée même qu'on se fait des hommes et des femmes. Et je dis également que dans cette lecture-là de la Bible, il y en a d'autres. C'est ça l'intérêt aussi de la lecture juive. Il y a aussi dans le Midrash des choses qui ne sont pas du tout dans ce chemin-là, dans cette voie-là. Il y a par exemple un Midrash qui ressemble un petit peu à un fabuleux du Moyen-Âge, dans lequel on dit, et c'est plein d'humour de la part des rabbins qui ont fabriqué cette interprétation, c'est un très long texte, une page à peu près, qui dit ceci. Pourquoi est-ce que, qui représente l'interprétation côte, et qui dit pourquoi est-ce que la femme a été créée de la côte de l'homme. Et ça continue. Si elle avait été créée de l'oreille de l'homme, elle serait devenue curieuse. Si elle avait été créée de la jambe de l'homme, elle serait devenue écouteuse. Si elle avait été créée de la main de l'homme, elle serait devenue voleuse. Etc., etc. Mais c'est tellement énorme qu'on ne peut pas le lire autrement que comme, je vous ai dit, un fabuleux du Moyen-Âge, quelque chose d'éminemment plein d'humour. Juste pour vous dire que oui, il y a des interprétations diverses. Et cette interprétation-là, de la côte, non pas, enfin, du mot tsela, pris dans le sens du côté, c'est vraiment une interprétation importante et majeure, mais qui n'est pas passée dans les traductions et dans les traditions de récits. Inutile de se demander pourquoi, évidemment. Par contre, dans la littérature talmudique, oui, ça se trouve dans la littérature talmudique et ça suscite des tonnes de questions des rabbins qui disent oui, mais si on comprend comme ça, alors qu'est-ce qu'il faut penser de tel autre verset? Et on a des procédures d'intertextualité qui sont vertigineuses, mais qui disent la chose suivante. Le texte biblique, il est daté. On est bien d'accord. Il décrit une société qui est une société patriarcale. Inutile de prétendre, parce que ce serait vraiment d'un mauvais espoir, que la Bible est féministe. C'est ridicule de dire une chose comme ça. Le féminisme, c'est une manière de voir les choses qui est éminemment contemporaine. Par contre, et ça c'est très précieux pour celui qui s'attelle à la lecture de la Bible, il y a des ouvertures, il y a des fléchages, il y a des pistes qui sont indiquées que nous pouvons utiliser pour nous inscrire dans, à partir de ce texte biblique, dans une trajectoire. Dans la tradition juive, dans la façon juive de voir le monde, l'être humain, l'humanité est, je vais dire un mot qui peut-être va vous choquer, co-créatrice du futur, co-créatrice de l'avenir. La tradition juive la plus orthodoxe dit que l'être humain est le partenaire de Dieu dans la création. Dieu lui a passé le pouvoir, et lui a demandé d'amener cette création à sa perfection. En tout cas, de l'améliorer, de la perfectionner, de la parfaire, et l'être humain est chargé de cette fonction-là, de cette mission-là, de faire changer les choses, de faire que l'aujourd'hui change demain. La valeur du changement dans le texte biblique, dans la tradition juive, elle est absolument fondamentale. Le changement est non seulement possible, mais il est souhaitable. Et à partir de là, eh bien, la volonté de changer les choses, la volonté d'améliorer la société, d'améliorer le fonctionnement de la société, c'est quelque chose qui est de plein pied dans la tradition, je vais utiliser un mot encore, peut-être qu'il va vous étonner, dans la tradition messianique du judaïsme. C'est quoi la tradition messianique? C'est précisément ça, c'est de considérer qu'on part d'un certain point et qu'on chemine pour arriver à ce que les lendemains soient meilleurs et à ce qu'on arrive à ce que décrivent les grands prophètes bibliques, Isaïe par exemple, une société où la violence finisse par être supprimée et où la paix, le shalom, puisse être installée comme valeur fondamentale de la société.
Pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est vrai que moi je remarque que quand je lis en arabe et quand je lis la traduction en français, je me rends compte combien sont biaisés les mots concernant les femmes et les hommes. Déjà en arabe, on n'a pas, donc c'est vrai que la langue française c'est homme pour dire homme et femme, alors qu'en arabe c'est insen, donc souvent c'est-à-dire on s'adresse à l'être humain, insen, femme et homme. Et quand on voit la traduction, eh ben, c'est souvent très masculin. Et carrément, c'est là la question qui a été très bien décrite, que ce soit par Emmanuel, que ce soit par Janine, la question de la création, là où il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui dit que Ève est sortie de la côte d'Adam, en arabe, ça n'existe absolument pas. C'est incroyable que la traduction en rajoute finalement sur un texte qui n'en parle pas. Donc la traduction est biaisée par un regard. Et ça, c'est ce que je voudrais souligner, qui a déjà été dit, c'est-à-dire que le texte il ne change pas, mais nos regards sur le texte changent. Et évidemment, concernant l'islam, il y a 1,5 milliard de musulmans, plus ou moins, sur cette planète, et vous vous doutez bien que sur 1,5 milliard de musulmans, on ne lit pas, et Dieu merci, c'est une miséricorde, on ne lit pas le Coran, tous de la même façon. Et on a des regards différents sur le texte. Et ce regard, souvent, ce regard, je dirais, d'émancipation, qui est posé par les femmes, c'est grâce à l'éducation. Donc j'ai la chance, comme je vous l'ai dit, je viens d'un pays qui est la Tunisie, où cette éducation a été obligatoire pour les femmes dès l'indépendance de la Tunisie en 1956. Et donc, les femmes se sont appropriées le texte, elles lisent le texte, et je vais vous donner juste deux, trois exemples par rapport au regard sur donc, le Coran, qui lui ne change pas, mais le regard change. Alors, ce serait sur la question de la polygamie et la question du droit pour la musulmane d'épouser un non-musulman. Alors, la polygamie. Déjà avant même l'indépendance, il y avait Tahar Haddad, qui est un très grand théologien, dans les débuts du XXe siècle, il a écrit un très fameux livre qui s'appelle « Imra'atuna fi al-Sharia wal-Mujtama », c'est-à-dire « Notre femme dans la charia, ça veut dire dans la législation musulmane, au mujtama et dans la société. Et Tahar Hadith, qui avait donc à l'époque une trentaine d'années, s'est fondé sur le Coran en disant, dans le Coran, il n'est pas interdit aux femmes d'être éduquées, il n'est pas interdit aux femmes d'être égales des hommes, bien au contraire, et dans le Coran, la polygamie est interdite. Donc à l'époque, ça avait fait scandale, parce que forcément, bon, les hommes, et puis ça me dérange bien, avoir quatre femmes, c'est quand même sympa, pour, voilà, on a quatre femmes, et puis c'est comme ça. Il a dit non, et il a fait pratiquement comme une espèce de, c'est-à-dire c'est presque mathématique, alors c'est une démarche mathématique, très logique qu'il a proposé, une lecture du Coran, que maintenant, toute la Tunisie a repris. Donc il avait dit, dans le Coran, il est bien dit, vous pouvez épouser une, deux, trois, quatre femmes. Déjà, c'était la condition, c'était par rapport aux orphelins, mais là, je ne vais pas aller trop dans les détails, parce que ça nous mènerait trop loin, mais juste pour vous donner un exemple. À condition d'être juste. Et un peu plus loin, il est bien spécifié dans le Coran qu'on ne pourra jamais être juste. Donc, Tahar Hadith avait conclu, voilà, il y a une possibilité, assortie d'une condition qui ne pourra jamais être remplie. Donc, de ce fait, ça veut dire interdiction. Et c'est sur cette base que Bourguiba, au moment de l'indépendance, en 1956, il a dit, alors oui, juste avant, Tahar Hadith, quand il a dit ça, donc c'était un théologien, un jeune théologien, il s'est fait a plus qu'à chuter, il en est mort de chagrin, à l'âge de 30 et quelques années. Lui, il est mort, mais ses idées, elles sont pas mortes. Et au moment de l'indépendance, Bourguiba, à l'époque, a repris ce regard sur le Coran. Parce que comme je vous dis, le Coran, il ne change pas, mais les regards peuvent changer. On n'a pas tout. Et il a dit, sur la base de cette lecture du Coran, la Tunisie a interdit la polygamie. Et moi, je vais vous dire, quand j'étais jeune, je me suis dit, c'est sûr, bon, la Tunisie est un des premiers pays, mais après, ça va en avoir plein d'autres. Eh ben non. Le regard patriarcal est toujours là. Et quoique, donc, ça a été vraiment démontré théologiquement, on peut dire, c'était ça la force, eh bien, ça n'a pas donné de résultats dans d'autres pays arabes. Par contre, à un moment, donc il y a eu un souhait de certains théologiens de revenir en arrière, notamment après la révolution en 2011 en Tunisie, certains théologiens ont dit « Ah non, il faut revenir à les quatre femmes, etc. » Le Coran le dit. Eh bien, les femmes notamment, mais pas seulement, leur ont dit « Non, c'est pas le Coran qui vous dit ça, c'est votre regard sur le Coran. » On peut lire les choses autrement. Et nous, on les lit autrement. Toi, tu lis le texte comme ça, voilà, il y a une inégalité, les femmes... Eh bien non, moi, je le lis d'une autre manière. Et c'est grâce à cela, et grâce au fait que les femmes aient eu le droit à l'éducation depuis 1956, qu'elles ont donc elles-mêmes lu le Coran dans le texte, elles ont pu s'en saisir, et elles ont pu, justement, défendre leurs droits. Et puis je m'arrêterai là, et ça c'est un sujet qui intéresse aussi en France, parce que la question du mariage de la musulmane avec un non-musulman. Alors là aussi, c'est une question qui fait beaucoup couler d'encre, les regards ne sont pas tous les mêmes, hein, mais d'accord. Et la Tunisie est l'un des premiers pays musulmans à avoir accordé en droit à la femme musulmane d'épouser un non-musulman. Alors que dans beaucoup de pays musulmans, on dit non, c'est pas possible, le texte du Coran l'interdit. Et en fait, et là je voudrais rendre hommage à ces femmes dont Amel Grani Erbel Rabi, qui ont écrit, bon c'est en arabe, mais vous pouvez retrouver les traductions sur en français dans le groupe de recherche islam chrétienne, GRIC, 3W GRIC, il y a tous ces textes donc basés sur le Coran. Elles expliquent bien que dans le Coran, il est nullement interdit aux hommes d'épouser les femmes du livre. C'est-à-dire le livre, c'est les femmes donc juives et chrétiennes. Nullement interdit, il est même autorisé. Et elles expliquent aussi que dans le Coran, il est nullement interdit aux femmes musulmanes d'épouser. Il n'y a pas d'interdiction. Et en fait, on n'en parle pas. Et donc, elles ont fait une espèce de parallélisme des formes. C'est comme ça qu'on en parle en droit. Donc, elles ont fait un parallélisme des formes en disant il y a une autorisation au côté masculin, aucune interdiction du côté féminin. Donc, il n'y a aucune raison d'interdire aux femmes musulmanes d'épouser des non-musulmans. Et ce qui fait que, après un combat acharné, qui a duré des années, parce qu'il faut le savoir, en France, évidemment, il y a de plus en plus de femmes musulmanes qui, bah, l'amour, il n'y a pas de frontières, hein, je ne dis pas, hein, c'est comme ça, et de plus en plus de jeunes femmes rencontrent des jeunes hommes qui ne sont pas forcément des musulmans du pays, et qui plaisent, entre guillemets. Donc, elles sont amoureuses, elles se marient, et après, c'est la famille qui renie, qui dit, ah non, leur religion, etc., ne veut pas. Et là, elles ont bien montré que ce n'est pas le religieux, c'est beaucoup la tradition, la coutume, le regard sur la religion, et en fait, certains veulent imposer une certaine vision. Oui, je crois qu'on a pris bien du temps. Alors, peut-être un dernier mot avant que vous ayez la parole largement. Un mot d'ouverture, et je voulais peut-être sur la question du dialogue.
Je m'appelle que démocratie, religion et dialogue.
Voilà, la question du dialogue entre nous pour la démocratie. L'une de vous veut commenter ? Je commence. Bon. Je commence. Pour moi, le dialogue sert à faire, entre guillemets, c'est vilain, c'est un verbe qui est très moche. Il porte des fruits. D'abord parce qu'il me permet d'approfondir ce que je crois, ce que je suis. Quand j'entre en dialogue, l'autre me pose des questions en me disant « Mais pourquoi tu crois comme ça? Pourquoi tu dis les choses comme ça ?» Et dans un vrai dialogue, je suis amenée à essayer d'expliquer d'où ça vient, et donc à chercher moi-même pourquoi je crois ça, pourquoi ceci est important pour moi, pourquoi cette chose-là ne résonne pas, pourquoi ça n'a pas de sens. Et donc le dialogue avec l'autre fait que j'approfondis qui je suis et ce que je crois. Ça n'est pas du tout... Parfois il y a une peur dans le dialogue de perdre quelque chose, d'être fragilisé, ou d'être... Et en fait, à chaque fois que j'ai été dans un vrai dialogue, je me suis rendu compte que c'est le contraire qui se passe. C'est qu'en fait, il y a un approfondissement. Et si je suis bousculée, c'est toujours positif. C'est toujours pour découvrir quelque chose de nouveau par rapport à ce que je crois. Il y a plusieurs exemples comme ça que j'ai vécu avec Floriane et Kaina. Et de ce qu'elles me racontent, de ce qu'elles me racontaient de leur propre vécu, leur manière de vivre leur spiritualité ou leur foi, j'ai aussi découvert des choses qui me manquent. Par exemple, le judaïsme qui vit très concrètement dans des gestes, le fait de commencer un temps particulier, le temps du Shabbat, voilà comment on entre en Shabbat, il y a des gestes, il y a des choses que l'on mange, des choses que l'on fait. Et cette incarnation, je le dis avec mes mots, hein, cette incarnation de quelque chose d'important, de mis à part, de saint, je me suis rendu compte que finalement le protestantisme avait, en ayant peur de sacraliser des événements, des lieux, des objets, des choses, des personnes, on s'était éloigné, on avait perdu, je pense, un certain nombre de choses. Et donc, dans le dialogue, non seulement j'approfondis ce que je crois, mais je découvre chez l'autre des choses qui m'enrichissent. Et voilà pour moi l'idéal de la démocratie. C'est ce dialogue, on peut dire le dialogue des transcendances, ça fait bien, mais ce dialogue des recherches, ces questions ouvertes en permanence. Tant que nous restons dans notre foi, porteurs de questions, nous allons nous enrichir les uns les unes et les autres. À partir du moment où je pense que j'ai reçu une réponse qui est définitive, et que du coup je vais imposer à l'autre, je tue à la fois le dialogue, mais sans doute la vie. Je vais pas rester là-dessus. Voilà. Donc, je vais dire de manière positive. Le dialogue des questions, le dialogue des recherches, c'est ce qui peut, à mon avis, la piste pour une vie, un vivre ensemble, comme on dit, riche.
D'accord. Alors, je vais aller très vite pour faire un point à ce que Emmanuel vient de dire. Le dialogue, les mots qu'elle a utilisés, pour moi, sont absolument fondamentaux. Les mots de question, les mots de mise en question, les mots de ne pas être arrivé, je crois qu'il y a d'autres mots, ne pas se sentir arrivé, ne pas se sentir propriétaire d'une certitude. Se sentir ouvert à la mise en question, dans tous les sens de ce terme, je crois que c'est le fondement élémentaire de tout dialogue. Et ça suppose, ce dialogue-là, cette pratique du dialogue, qui est ce que nous essayons de pratiquer, entre autres dans le dialogue interreligieux, mais également dans la vie de tous les jours, ça suppose une chose très importante, c'est qu'on n'ait pas peur. Et je veux dire un tout petit mot là-dessus, c'est que depuis le 7 octobre, pour la communauté juive en France, il y a de la peur qui s'est installée, de la peur par rapport à la sécurité, mais aussi de la peur par rapport à la possibilité de parler de ce qui s'est passé le 7 octobre, qui est en dehors de toute politique, qui est simplement quelque chose qui est à condamner du point de vue de l'éthique la plus fondamentale. Et cette condamnation-là, les Juifs ne l'ont pas entendue, ou l'ont entendue de la part de personnes privées en général, mais ils ont été saisis, secoués par le silence incroyable de nombre d'institutions internationales, et en particulier, et c'est là-dessus que je terminerai, les féministes, les mouvements féministes, qui ont mis 3 mois à dire que les viols de femmes juives en Israël étaient quelque chose d'immonde. Sachez que dans la communauté juive, nous sommes très, très, très secoués par cela.
Bien, je reprendrai ce qu'on dit, que ce soit Janine, que ce soit Emmanuel. Concernant l'islam, je dirais que le dialogue est consubstantiel au texte, puisque dans le Coran, on reconnaît tous les textes qui nous ont précédés. Et souvent, il est dit « rappel ». Donc en fait, pour moi, l'islam, c'est un rappel. Et c'est simple, c'est sûrement pas se couper des autres religions, c'est au contraire s'inscrire dans les autres religions. Et quand j'entends certains qui disent « l'autre, il est à exclure », l'autre, c'est-à-dire que se saisir d'une appartenance en la rendant identité exclusive et excluante, ce dont a parlé Amin Malouf dans son livre d'identité meurtrière, nous dit cette personne qui se dit musulmane n'a rien compris. Parce que dans le Coran, souvent il s'agit du rappel. Et rappel, et d'ailleurs, on rappelle et on se réfère, c'est-à-dire il faut qu'on dise notre texte. Donc il est déjà consubstantiellement en dialogue. Mais entre le texte et la réalité, eh bien on voit bien qu'est-ce qu'il en est, et aujourd'hui encore plus, dans la violence que nous vivons aujourd'hui, qui est terrible. Alors juste pour terminer, je suis aussi coprésidente du comité pour le dialogue, justement, interreligieux et interconditionnel auprès des ONG du Conseil de l'Europe. Et nous, on plaide absolument, aujourd'hui, nous vivons avec nos diversités. Nos enfants le seront encore plus, en plus, à vivre avec nos diversités. Donc il est plus urgent que jamais d'apprendre à nous rencontrer, d'apprendre à nous écouter, d'éduquer pour dialoguer. C'est une éducation à l'autre, à dialoguer. Et que ce soit non seulement interreligieux, mais interconditionnelle, avec des personnes de toute conviction, parce que nous sommes amenés ensemble dans nos diversités à essayer de vivre un tant soit peu de manière la plus apaisée. Merci.